Bonjour à toutes et à tous. J'ai choisi ce texte et ce thème, la nouvelle naissance, parce qu'il me semble que c'est un des thèmes les plus importants de la Bible. Lorsque Jésus a parlé de ce thème dans ce texte, c'est sans doute au tout début de son ministère, et on peut comprendre la surprise de Nicodème. D'abord, qui était Nicodème ? Nicodème, nous l'avons vu, il est venu de nuit, on ne sait pas à quelle heure, peut-être à minuit. En tout cas, il est venu de nuit. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il avait peur qu'on le voie. Vous savez que Jésus aujourd'hui est quelqu'un de connu. Même si Jésus revenait aujourd'hui sur terre, bon, je ne sais pas ce que les hommes lui feraient cette fois-ci, mais je pense qu'il serait quand même accueilli avec joie par beaucoup de personnes, en tout cas au début. Vous savez qu'au début, Jésus était accueilli avec joie par tous, parce qu'il parlait d'une manière très agréable, d'une manière autoritaire, d'une manière convaincante, parce que convaincu lui-même, et il faisait des miracles dont tout cela impressionnait les gens, tout cela les changeait de l'ordinaire. La Bible dit qu'il ne prêchait pas comme les chefs religieux, comme les prédicateurs, comme les rabbins de l'époque, mais ce qu'il disait était vraiment marqué par une onction particulière, par une conviction particulière. Alors je ne sais pas si les chefs religieux manquaient de conviction, ou probablement que, comme toujours, certains exerçaient leur fonction avec passion, avec conviction, mais ce n'était pas apparemment le cas de la plupart d'entre eux, puisque les gens n'auraient pas dit, sinon Jésus parle autrement, il parle avec autorité, il ne parle pas comme nos chefs. Nicodème était un chef religieux. Il faisait partie du groupe du Sanhédrin. Le Sanhédrin était un organisme d'environ 70 ou 72 personnes qui s'occupaient de toutes les décisions religieuses importantes. Parfois, ça devenait une sorte de tribunal, comme nous le voyons à la fin de l'Évangile pour juger Jésus. Mais c'était en tout cas un corps de chefs religieux qui, excusez-moi l'expression moderne, faisait un peu la pluie et le beau temps parmi les Juifs. Ils avaient beaucoup d'autorité. Jésus s'est un petit peu attaqué à eux pendant son ministère en les accusant, par exemple, d'imposer sur le dos des gens des lois, des commandements, des ordonnances qu'eux-mêmes ne cherchaient pas forcément toujours à mettre en pratique. C'était des chefs et Nicodème, apparemment, était l'un d'entre eux. C'est en tout cas ce que dit l'apôtre Jean ici. Alors, on peut comprendre mieux pourquoi Nicodème est venu voir Jésus de nuit, c'est-à-dire en cachette. En cachette parce que, bien sûr, il ne voulait pas qu'on sache qu'il était venu voir Jésus. Il ne voulait pas que, je dirais, ses collègues pharisiens se rendent compte que l'un des leurs était allé voir celui, Jésus bien sûr, celui qui prêchait sans jamais avoir étudié dans une école rabbinique, celui qui faisait des miracles qu'eux-mêmes ne faisaient pas. Et vous savez que faire des miracles, c'est plutôt bien perçu. Quelqu'un qui guérit les malades par un mot, par une prière, par un geste, c'est forcément quelqu'un qui va vite devenir populaire, ne serait-ce qu'auprès des malades et de leur famille. Alors, pour toutes ces raisons, Nicodème est venu voir Jésus de nuit. On pourrait aussi se poser la question, pourquoi Nicodème a-t-il eu envie de venir voir Jésus ? La question est importante, mais la réponse est certainement facile à donner. Nicodème était sans doute poussé par sa curiosité, mais je crois qu'il y avait au fond de lui, pour prendre quand même un risque, parce que même s'il est venu de nuit, même s'il est venu à l'heure où la plupart des gens sont chez eux et dorment, je crois qu'il est venu parce qu'il avait en lui le désir de savoir, le désir de connaître, le désir de comprendre pourquoi Jésus était là. Parce que, vous voyez, vous avez vu au début l'entretien qu'il a avec Jésus, Nicodème ne s'adresse pas à Jésus d'une manière toute simple, il lui dit « Rabbi », ce qui veut dire « maître », même plus précisément « mon maître ». Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. C'est déjà important de dire cela. Il aurait pu dire « Nous avons l'impression que tu as reçu quelque chose de particulier ». Non, il dit « Nous savons que tu es un docteur ». Il n'a pas étudié dans une école, il n'a pas de diplôme officiel, il n'a pas été investi ou ordonné, comme on dirait aujourd'hui, par un corps religieux officiel, mais il lui dit « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ». Je me demande parfois si Nicodème n'emploie pas ici un pluriel de politesse pour vouloir dire, peut-être par peur de dire « Je sais, je suis convaincu que tu es un docteur venu de Dieu ». Peut-être dit-il simplement « Nous savons » pour englober je ne sais qui avec lui, pour moins s'identifier à celui qui a cette idée, parce qu'apparemment c'est lui qui a cette idée. « Nous savons », ce n'est pas une idée même, c'est une conviction, « que tu es un docteur venu de Dieu ». Nicodème, peut-être parce qu'il est seul avec Jésus, ou peut-être y a-t-il un témoin, certains pensent que peut-être l'apôtre Jean était le témoin de la conversation. Vous savez, dans ce temps-là, et en plus, vu la profession de l'apôtre Jean, qui était pêcheur, vu les origines humaines de Jésus, qui n'était pas né dans un foyer ruisselant de richesses et de luxe, dans ces temps-là, comme cela était le cas encore il y a quelques dizaines d'années dans notre pays, et certainement au Vietnam, les gens parfois vivaient dans une pièce, une grande pièce. Et difficile de croire que Jésus était tout seul dans cette pièce, il habitait là, à Jérusalem. Certains pensent que c'est peut-être l'apôtre Jean qui l'hébergeait, puisqu'apparemment Jean avait un logement à Jérusalem pendant son séjour. Toujours est-il que Nicodème est là. Il dit à Jésus « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu » et il précise « Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui ». En effet, dans le chapitre 2, il est écrit un petit peu plus tôt, au verset 23, chapitre 2, verset 23, il est dit que pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom en voyant les miracles qu'il faisait. Alors, peut-être que Nicodème était de ce nombre-là. Peut-être que Nicodème, comme les autres chefs religieux, avait observé Jésus pratiquer, prêcher et pratiquer, et il faisait partie peut-être déjà de ces gens qui croyaient en lui, sans peut-être trop savoir exactement qui était Jésus. Tout ceci est bien beau. Il y a aussi, je crois, un côté solennel à cette visite de Nicodème, parce que Nicodème représente, je dirais, ce que la religion a de plus noble. Nicodème croit à ce qu'il fait. Il croit à ce qu'il pratique, il croit à ce qu'il enseigne peut-être, et parce que peut-être enseigne-t-il. Il est sincère, et je crois que nous devons toujours avoir du respect pour tous ceux qui pratiquent sincèrement leur religion, quelle qu'elle soit. Bien sûr, nous ne partageons pas leur foi, sauf s'ils sont chrétiens. Mais nous devons avoir quand même du respect pour toute personne qui cherche une vérité dans un rapport avec Dieu, quel que soit ce Dieu. Bien sûr, cette personne a besoin d'être éclairée. Et Nicodème représente la religion officielle dans ce qu'elle a de plus sympathique, de plus noble, de plus sincère. Mais ce qui est extraordinaire dans ce texte, et c'est pourquoi j'ai voulu le faire lire cet après-midi et le méditer avec vous, c'est la réponse de Jésus à cette entrée en matière de Nicodème. Peut-être qu'il y a chez Nicodème aussi une certaine politesse à reconnaître, certaine diplomatie, on dirait aujourd'hui, à reconnaître que Jésus est quand même quelqu'un qui probablement vient de Dieu, parce qu'il fait des miracles. D'ailleurs, il le dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais s'il n'a pas l'aide de Dieu. Il reconnaît qu'un homme normal ne peut pas faire ces miracles. Alors, ce qui est important, c'est ce que dit Jésus. Au verset 3, aussitôt après, Jésus lui répond, « En vérité, je te le dis, Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. La réponse est claire, elle est simple, mais elle est précise et elle porte en elle-même quelque chose de très solennel à celui qui représente la religion de l'époque, encore dans ce qu'elle a de plus noble, de plus beau, de plus méritoire, de plus digne, de plus sincère, et qui lui dit « Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui, donc Dieu est avec toi, tu fais de grands miracles, tu es un docteur. » Jésus répond en quelque sorte « Nicodème, tout cela est bien beau, mais sache que cela n'est pas si important. À ton niveau, à toi, pour toi, aujourd'hui, il y a quelque chose de plus important encore que tous ces miracles. » Vous savez que de tout temps, les gens ont aimé voir des miracles. Les gens ont toujours été attirés par les miracles. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Faites venir un évangéliste qui va faire des miracles, entre guillemets, puisqu'on saura que ce n'est pas lui qui les fait, c'est Dieu qui les fait par son moyen, et vous verrez les foules accourir. Et même pas seulement les croyants, mais même les incroyants. La Bible dit qu'au temps de Jésus, même le tétrarque Hérode, avait été heureux lorsque Jésus a été amené devant lui, lorsqu'il a été arrêté, parce qu'il espérait que Jésus ferait un miracle. Parce que le miracle, c'est quelque chose de spectaculaire, c'est quelque chose de beau. Eh bien, Jésus dit non, il y a quelque chose de plus important que le miracle, c'est de naître de nouveau. Alors, nous voyons que Nicodème ne comprend pas au début de quoi il s'agit, puisqu'il dit, il croit qu'il s'agit d'une naissance naturelle, comme celle par laquelle nous sommes évidemment tous passés, puisque nous sommes ici aujourd'hui. Alors Nicodème dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ce qui peut nous laisser penser que Nicodème était vieux, parce qu'il parle d'abord de lui, il vient d'abord pour lui. Est-ce qu'il peut rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et bien évidemment, Jésus ne parle pas de cela. Jésus parle d'une autre naissance. Jésus parle d'une naissance que nous pourrions qualifier de spirituelle. La grande révélation de Jésus à Nicodème, révélation que nous lisons dans le reste de la Bible, sous différentes expressions, c'est que de même que nous sommes nés de nos parents pour pouvoir vivre une vie, je dirais biologique, physique, de même, de la même manière, il nous faut naître encore une fois de nouveau, ou comme disent certaines traductions, d'en haut, parce que dans la langue grecque c'est le même mot qui est traduit par d'en haut et de nouveau. De même, il nous faut naître de nouveau d'en haut pour pouvoir commencer une véritable existence spirituelle. Au temps de Jésus, comme souvent aujourd'hui, les gens pensaient que l'important c'était de faire. Les pharisiens, les chefs religieux du temps de Jésus, enseignaient que pour plaire à Dieu, il fallait faire un tas de choses. Mettre en pratique la loi de Moïse, les 10 commandements et toutes les autres ordonnances que Dieu avait confiées à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Mais il nous est dit, les historiens nous disent que les chefs religieux, les pharisiens, avaient ajouté au contenu de la Bible, de l'Ancien Testament bien sûr, avaient ajouté plus de 600 prescriptions, lois, ordonnances qui entraient dans tous les détails de la vie quotidienne, de ce que l'on pouvait faire, de ce que l'on ne pouvait pas faire, de ce que l'on ne devait pas faire, de ce que l'on devait faire pour être en règle avec Dieu. Regardez aussi cet homme riche, ce jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit « Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Que dois-je faire ?» Encore un autre, c'est lorsque, vous savez, cet officier royal, donc juif, qui a un serviteur malade et qui vient voir Jésus en lui disant « Seigneur, j'ai mon serviteur qui est très malade, il faut que tu pries pour lui. » Alors, les gens qui sont à côté, qui sont des amis de cet officier, disent à Jésus « Seigneur, il mérite que tu fasses cela pour lui, parce que c'est lui qui a construit notre synagogue, en quelque sorte, c'est lui qui nous a donné l'autorisation, c'est lui qui nous a donné l'argent pour construire la synagogue. Là encore, les contemporains de Jésus donnent l'impression de croire que parce qu'on a fait quelque chose de bien, on mériterait la vie éternelle. Tout dans la pratique des gens. Et je crois qu'aujourd'hui, il en est de même. Regardez avec quel beau regard positif on regarde une personne, on considère une personne qui a donné beaucoup d'argent pour une œuvre de bienfaisance, une œuvre caritative, une œuvre humanitaire. On voit parfois ces artistes qui sont là à la télévision, hein, je parle d'ici bien sûr, et qui sont remerciés en public parce qu'ils ont donné, parce qu'ils font beaucoup pour telle œuvre. C'est inscrit presque dans les gènes de l'être humain que parce qu'on fait, on est. Parce qu'on fait quelque chose de bien, on est quelqu'un de bien. Cette notion de mérite, elle est inscrite dans les gènes de tous les êtres humains. Et Jésus va faire là une révolution. Aux yeux de Jésus, ce n'est pas parce que l'on fait que l'on est, c'est parce que l'on est que l'on fait. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Jésus dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Le bon fruit ne peut être porté que par le bon arbre. Mais dites-moi, il faut quand même d'abord un arbre pour qu'il y ait du fruit. On n'a jamais vu des pommes pousser toutes seules et puis l'arbre que l'on appellerait le pommier apparaître au bout d'un certain temps après un certain nombre de pommes. Et il en est ainsi dans toute la nature. Nous sommes aujourd'hui des êtres humains, nous pratiquons certaines choses parce que nous sommes nés. Parce que pour être, il faut naître. Je suis français, pourquoi ? Vous savez pourquoi je suis français ? Parce que je suis né d'un père français. Je sais parce qu'un jour, je ne sais plus pour quelle raison, j'ai dû demander un certificat de nationalité. Et alors j'ai lu ce certificat, je ne sais plus pourquoi, peut-être pour passer un concours administratif ou sans doute quelque chose comme cela. Et alors j'ai regardé mon certificat de nationalité, et il était écrit « Monsieur Le Perru-Philippe est français ». Moi, je pensais que c'était parce que mes deux parents étaient français. Non, non, parce que mon père était né en France d'un père qui lui aussi était né en France. C'est intéressant cela, hein. Je n'entre pas dans le débat aujourd'hui sur la nationalité française, l'immigration, l'identité. Je laisse cela à ceux que vous savez. Ce n'est pas mon affaire. Mais je suis français parce que je suis né d'une certaine manière. Et il en est ainsi de tous les peuples. Même si on change de nationalité, on est toujours ce que l'on est au départ, parce que c'est la nature qui est comme cela. Eh bien Jésus dit, pour pouvoir voir le royaume de Dieu, pour devenir un homme ou une femme spirituelle, dans le bon sens du terme, il faut une expérience particulière que l'on appelle la nouvelle naissance. Aucun de nous ne se rappelle certainement le jour de sa naissance. Non ? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'avait raconté le jour de sa naissance. À moins qu'on le lui ait raconté et qu'il ait ensuite raconté. Vous savez, quand on arrive à un certain âge, des fois, je me pose des fois la question moi-même sur certains souvenirs qui remontent très loin dans ma petite enfance. Mais est-ce que c'est vraiment moi qui m'en souviens ou est-ce que je n'ai pas fabriqué un souvenir à partir de ce qu'on m'a raconté ? Parce que c'est un petit peu différent. Alors, personne ne se souvient de sa naissance. Cependant, personne ne doute qu'il est né, puisqu'il existe. Eh bien, Jésus dit, pour connaître la nouvelle, pour connaître la vie spirituelle, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour avoir la vie éternelle, il faut être né. Et être né, c'est une expérience particulière. Jésus dit, c'est indispensable pour pouvoir voir le royaume de Dieu. C'est ce que dit, par exemple, l'apôtre Paul. Lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, je vais lire ces paroles pour bien les citer, c'est une parole qui est assez connue. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un est né et qu'il vit maintenant uni au Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a d'autres textes, par exemple dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 10, je lis ceci. La lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Bien sûr, la lumière, c'est Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, Jésus parle de la même chose. Il dit... Lorsqu'on croit en lui, lorsqu'on le reçoit, c'est-à-dire lorsqu'on entend sa parole ou lorsqu'on la lit, lorsqu'on l'étudie et qu'on adhère à ce qu'on lit, qu'on croit que ce qui est écrit dans l'Évangile est vrai, que Jésus, par exemple, est venu pour pardonner nos péchés, pour nous donner une nouvelle vie. Lorsqu'on lit cela et qu'on croit ce qui est écrit, Jésus dit, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Et nous revenons ici à l'idée de la naissance. Nous sommes nés un jour, et nous, comme nous sommes nés, nous sommes devenus enfants de quelqu'un. En principe, de deux personnes. Donc, Jésus dit ici la même chose. La parole, c'est-à-dire Jésus, lorsqu'il est reçu par ceux qui l'entendent, lorsque ce qu'il dit et ce qu'il fait est cru comme étant la volonté de Dieu, comme étant l'expression de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, alors on devient enfant de Dieu. Alors, je résume tout cela. La grande réalité de l'Évangile, la grande réalité du message de Jésus, le cœur même du message de Jésus, c'est que pour voir le royaume de Dieu, il faut passer par cette expérience précise, ponctuelle, extrêmement importante, qui s'appelle la deuxième ou la nouvelle naissance. Je parlerai aussi, j'avais pensé mettre comme titre, la deuxième naissance. Bon, chacun doit passer par une deuxième naissance, qui se ressemble, parce qu'elles donnent toutes les deux l'entrée dans une vie physique, biologique pour la naissance physique, et vie spirituelle pour la naissance, la nouvelle naissance dont parle Jésus, ou la naissance d'en haut. En conclusion, que pouvons-nous dire? Premièrement, que de cette manière, le destin spirituel de chaque être humain est entre ses propres mains, selon sa réponse à l'enseignement de Jésus. Quand il le reçoit, quand il l'entend, selon qu'il l'écoute et qu'il le croit, et qu'ensuite il appuie sa vie, qu'il fonde sa vie sur cet enseignement. Deuxième chose, quiconque désire devenir un enfant de Dieu peut naître de nouveau. Jésus a souvent appelé les gens de son temps à croire en lui. Il a dit par exemple un jour à ceux qui l'écoutaient, prenant une image, l'image de la soif, il a dit « Si quelqu'un a soif, sous-entendu d'une vie nouvelle, d'une vie différente, d'une vie spirituelle, selon Dieu, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. » C'est ouvert à tous. Et puis, la troisième chose, qui elle est moins positive, c'est que celui qui ne le veut pas, ou qui ne veut pas croire ce qu'il entend, se condamne lui-même. C'est ce que Jésus a dit dans la fin du texte qui a été lu tout à l'heure. Je relis ces quelques paroles. Jésus dit... verset 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Je termine par cette image. Jésus est ici décrit, ainsi que dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean et dans d'autres passages, notamment de l'Évangile de Jean, comme étant la lumière, la véritable lumière. Il y a eu tout au long de l'histoire différentes lumières, différents hommes qui ont apporté différents enseignements Certains ont prétendu être la vraie lumière. Mais ici, l'évangéliste Jean dit « Jésus était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme ». Si nous voulons que notre vie soit toujours éclairée par la révélation de Dieu, par cette compréhension de la vie et de l'histoire que Dieu nous donne en Jésus, il nous suffit de croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu'il peut nous éclairer, nous conduire jour après jour dans cette nouvelle vie qui commence après cette nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse.